sur d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, c'est l'un des rares pays européens où l'avortement est quasiment interdit. En Pologne, l'accord passé entre l'Église catholique et l'État polonais en 1993 autorise l'IVG uniquement dans trois cas, viol ou inceste, malformation irrémédiable du fœtus et enfin si la vie de la mère est en danger. À l'automne dernier, devant l'ampleur de la contestation dans la rue, le gouvernement conservateur a finalement retorqué un nouveau projet de loi qui voulait carrément interdire totalement l'avortement. Mais malgré tout, les Polonaises vivent tous les jours les pressions et le blâme si elles se décident à interrompre leur grossesse. Maja Szymanowska a suivi quelques-unes d'entre elles.
Eva Kalata a vécu cette expérience traumatisante d'un avortement clandestin. La jeune femme accepte de parler sous son vrai nom. Elle reçoit dans un appartement du centre de Varsovie, loin des regards inquisiteurs des opposants à l'avortement. Une amie médecin lui a prescrit des médicaments pour provoquer une fausse couche qui a mal tourné.
Mon ami m'a dit que j'allais beaucoup saigner, mais j'ai commencé à me demander ce que signifiait beaucoup. Il aurait fallu que je me rende à l'hôpital sans dire au médecin ce que j'avais fait. Mon ami m'a assuré qu'il ne pourrait pas prouver que j'avais déclenché la fausse couche, mais je ne voulais y aller à aucun prix. C'était déjà assez dur comme ça. Je ne voulais pas voir dans les yeux des médecins cette fraction de seconde où ils comprennent ce qui s'est réellement passé. J'avais vraiment peur de ça.
Il y a encore quelques années, ces avortements clandestins étaient monnaie courante en Pologne. Aujourd'hui, ce secteur autrefois lucratif est en perte de vitesse. En cause, la peur des répressions. Les personnes qui pratiquent les avortements illégaux risquent la prison. Et cette menace, qui était autrefois virtuelle, est bien réelle aujourd'hui. Un couple vient d'être accusé à Lublin de faire venir des médicaments provoquant des fausses couches. Il risque 2 ans de prison. Krystyna Kacpura, du planning familial de Varsovie.
Aujourd'hui, les avortements clandestins sont beaucoup moins courants qu'au moment de l'introduction de la loi restrictive de 1993. Les médecins ont peur, c'est plus risqué. Les avortements clandestins sont donc plus chers. Les femmes ne veulent pas risquer la possibilité d'une descente policière et ont peur de faire quelque chose d'illégal. Souvent, elles ne savent pas qu'elles ne peuvent pas être poursuivies. Ne wszystkie do końca wiedzą, że
wciąż nie są karane. En effet, l'avortement clandestin coûte cher. Il faut compter 1000 euros, soit 2,5 fois le SMIC du pays. Alors, de plus en plus de femmes traversent les frontières slovaques, tchèques ou allemandes pour se faire avorter légalement. Les moins fortunés se rendent en Slovaquie. L'intervention y coûte 250 euros contre 300 en République tchèque. D'autres choisissent la Lituanie ou l'Allemagne. Il faut compter 5 heures de train entre Varsovie et Szczecin, ville du nord-ouest du pays sur la frontière allemande. Puis encore 1 heure de voiture pour arriver dans la petite ville de Prenzlau. Dans cette bourgade allemande se trouve une clinique flambant neuve où officie Janusz Rudziński, gynécologue polonais, entouré d'infirmières également polonaises. Janusz Rudziński prend le temps de discuter avec les patientes qui lui confient leurs angoisses.
Elles me disent leur peur, combien elles appréhendent d'être pointées du doigt dans leur pays. Elles ont peur que quelqu'un apprenne ce qu'elles ont fait. La question la plus fréquente, c'est si leur gynécologue peut se rendre compte qu'elles ont avorté. Celles qui viennent du sud de la Pologne craignent surtout leur prêtre. Elles ne veulent surtout pas qu'il soit au courant.
Une jeune femme est venue ce matin de Poznań pour avorter. Comme 3 autres polonaises. Elle est la seule à vouloir témoigner. Avec son mari, ils ont roulé toute la nuit pour venir ici.
C'est terrible ce que fait notre gouvernement. C'est terrifiant, cette volonté de contrôler nos consciences, nos corps, nos décisions. Je ne voulais pas aller voir un médecin à Varsovie de peur de tomber sur quelqu'un qui critiquerait mon choix. J'ai passé Internet au peigne fin, j'ai aussi demandé aux copines. Quelqu'un m'a finalement indiqué cette clinique en Allemagne.
Les organisations féministes évaluent à 100 000 le nombre de Polonaises qui traversent les frontières pour se faire avorter. Et cela ne risque pas de changer de sitôt. Le gouvernement actuel multiplie les pressions et aide pour que les femmes accouchent, même si le fœtus est touché. Les Polonaises se mobilisent le 8 mars prochain pour encore une fois crier leur ras-le-bol.
« Les journalistes européens montent au créneau et affirment leur soutien au correspondant en Turquie du grand journal allemand Die Welt, arrêté il y a une dizaine de jours. Comme la grande majorité des 150 journalistes actuellement derrière les barreaux en Turquie, Deniz Yücel a été arrêté pour soupçon de terrorisme. Et si les attaques contre la liberté de la presse se multiplient depuis la tentative de coup d'État de juillet dernier, les correspondants étrangers étaient jusqu'ici épargnés. Cette nouvelle affaire n'arrange en rien, en tout cas les relations déjà compliquées entre l'Allemagne et la Turquie. Julien Michossi nous appelle de Berlin.
Un procédé inhabituel mais assumé par Die Welt qui a décidé de rendre publique l'arrestation de son correspondant. Si ce genre d'affaires se règle normalement dans les coulisses de la diplomatie, l'absence d'informations de la part des autorités turques a poussé le quotidien à jouer la carte de l'opinion publique avec succès, tant l'indignation est grande ici. Placé en garde à vue depuis 10 jours, Deniz Yücel peut y rester jusqu'à 2 semaines, sans voir de juge, des conditions de détention rendues possibles par l'état d'urgence décrété après le putsch manqué en juillet dernier. Accusé de terrorisme, la véritable raison de cette arrestation est certainement à aller chercher dans un article du journaliste, papier dans lequel il évoquait des informations compromettantes sur le ministre de l'énergie, Berat Albayrak, qui n'est autre que le gendre du président Erdogan. Berlin s'est emparé du cas Deniz Yücel. En marge de la conférence de Munich sur la sécurité, la chancelière Angela Merkel s'est inquiétée du sort du journaliste et de l'état de droit auprès du premier ministre turc. Le ministre des Affaires étrangères est également saisi du dossier et pas un jour ne passe sans que les médias allemands n'évoquent cette détention. Et les relations déjà très tendues entre Berlin et Ankara n'avaient vraiment pas besoin de ça. Entre menaces proférées par Erdogan à l'encontre de l'accord sur les réfugiés, soupçons d'espionnage turc sur le sol allemand à l'encontre des partisans du prédicateur Gülen et appel aux Turcs d'Allemagne à ne pas s'intégrer, c'est un nouveau dossier épineux entre les deux pays.
L'Espagne doit faire mieux en termes de lutte contre la pollution. C'est l'avertissement lancé il y a quelques jours par l'Union européenne qui a donné 2 mois au pays pour lancer un plan contre la pollution au dioxyde d'azote. Avec plus de 3 millions d'habitants, près de 2 millions de voitures, Madrid est considérée comme l'une des villes les plus polluées d'Europe. Depuis, la municipalité de gauche a dévoilé un plan ambitieux pour assainir l'air urbain et surtout restreindre la circulation dans le centre-ville. Et c'est le reportage de Laurent Berthaud.
On la surnomme parfois la Broadway madrilène, à cause de ses magasins, ses cinémas et ses boutiques de luxe. Mais au cœur de la ville, la Gran Via est d'abord une artère dédiée à l'automobile avec 6 fils de circulation. Elle débouche sur la place d'Espagne, qui dessert elle-même des routes à 6 ou 7 voies et 2 tunnels. Madrid a toujours privilégié l'usage de la voiture en ville, avec son périphérique, ses voies rapides et ses tunnels censés éviter les bouchons. Mais aujourd'hui, la capitale suffoque. Mariano González, militant à l'organisation Écologiste en Action.
Comme le montrent les études réalisées à Madrid, entre 70 et 80% de la pollution de l'air provient de la circulation, en particulier de la circulation automobile. Il faut donc à tout prix réduire le trafic dans l'hypercentre. Pour dissuader son utilisation, il faut faire en sorte que circuler dans Madrid en voiture soit plus difficile et en parallèle rendre les autres formes de déplacement plus attractives, la marche à pied, le vélo, les transports publics.
Un discours tout à fait raccord avec celui de la nouvelle municipalité qui, à la fin 2016, est passée à l'action. La ville a d'abord proposé un plan en 30 points pour réduire la place de la voiture. Elle veut notamment délimiter au cœur de la ville une zone de 500 hectares interdite aux voitures des non-résidents. L'objectif est de faire chuter de 40% le trafic de transit, les voitures qui ne font que passer par l'hypercentre.
Voilà.
Et le 29 décembre dernier, pour la première fois de son histoire, Madrid a expérimenté une journée de circulation alternée pour cause de pics de pollution. Inés Sabanes, responsable de l'environnement et de la mobilité à la mairie.
La gente ha respondido
D'une façon générale, les gens ont très bien réagi. Le jour où nous avons mis en place pour la première fois la circulation alternée, il n'y a pas eu de problème. Contrairement à certaines prévisions apocalyptiques, tout s'est très bien passé. Les gens sont conscients du problème de la pollution de l'air et savent qu'on doit désormais utiliser l'espace public d'une autre manière.
J'ai vu que la voiture occupait 60% de l'espace public, mais ne représentait que 25% des déplacements. Ça, vous voulez vraiment inverser, changer la donne,
hein?
Bien sûr, il ne s'agit pas seulement d'améliorer la qualité de l'air, mais aussi de mieux partager l'espace public. La majorité ne peut pas être lésée au profit d'une minorité. Ça ne veut pas dire qu'on est anti-voiture, mais on ne peut plus continuer sur le mode une voiture par personne et une personne par voiture. Il faut apaiser le trafic en développant le covoiturage, en utilisant tous les modes de transport disponibles, en accordant plus de place au vélo et au transport public. Et surtout, il faut que tous ces modes de déplacement soient efficaces.
Chaque jour, 1 million de voitures venues de banlieue entrent dans Madrid. La ville prévoit donc de renforcer l'offre de parking en périphérie tout le long de la rocade M30 qui fait le tour de la capitale pour inciter les automobilistes à continuer leur trajet en transport en commun ou à vélo. Et les cyclistes, on commence à en croiser à Madrid. D'abord, tous ceux qui utilisent les bicyclettes électriques en libre-service. Bicimad, souvent critiqué pour sa piètre qualité de service et qui vient d'être repris par la municipalité. Et puis, il y a Carmen, 60 ans, chasuble jaune fluo, casque et gants, qui, en quelques mois, a parcouru plusieurs milliers de kilomètres sur son vélo à assistance électrique. Elle se réjouit du plan de la mairie.
Ça me paraît très bien. Moi, je vis à Madrid depuis très peu de temps. Avant, j'étais à Barcelone, où les gens utilisent beaucoup plus leur vélo. Mais c'est bien qu'il y ait de plus en plus de vélos à Madrid. Et moins il y a de voitures, mieux c'est pour tout le monde.
Viva Bicicletas, c'est le nom d'un magasin de vélos du centre-ville. Nous y croisons Romain, un Français qui vit depuis 10 ans à Madrid. Lui aussi est ravi de ce plan.
C'est une super idée, parce que finalement, il y a trop de voitures en ville en fait, et que en tant que piéton, cycliste, on devrait pouvoir se déplacer plus librement en ville, et du coup je pense que c'est en éliminant les voitures qu'on va y arriver.
C'est difficile actuellement de se déplacer à vélo dans Madrid ?
Bon, finalement, tu finis par t'engueuler avec des taxis, tu finis par se faire klaxonner par des chauffeurs de bus. Mais finalement, je pense qu'on peut, quand même réussir à se déplacer en vélo dans Madrid.
Ruben Morillo est le patron du magasin.
Le problème à Madrid, ce n'est pas l'agencement des rues, ni le relief, ni le climat. Le principal obstacle au développement du vélo en ville, c'est que les gens ont peur. Ils ont peur de circuler à vélo entre les voitures. C'est la clé du problème. Alors bien sûr, la nouvelle municipalité essaie de changer les choses, mais pour l'instant, c'est loin d'être suffisant. Par le passé, Madrid a été l'une des villes européennes qui a consacré le plus d'espace à la voiture. Donc il va vraiment falloir redoubler d'efforts.
Au-delà des mesures d'urgence comme la circulation alternée ou des journées sans voiture dans l'hypercentre, comme ce fut le cas à Noël, la municipalité espère pouvoir mettre en œuvre son plan au cours des tout premiers mois de 2018, dans un an.
Et ce sera dimanche, la planète cinéma qui aura les yeux braqués sur la cérémonie des Oscars. On s'attend à une concurrence féroce, notamment dans la catégorie meilleure actrice. Meryl Streep, Nathalie Portman, Emma Stone, Isabelle Huppert, toutes des stars. Et puis il y a cette jeune Irlandaise, Ruth Negga. La comédienne d'origine éthiopienne joue dans Loving. Vous entendez en ce moment la bande-annonce, un film qui raconte le combat d'un couple dans l'Amérique ségrégationniste. Portrait d'une outsider avec Julien Lagache.
Il s'en est fallu de peu pour qu'elle rafle le Golden Globe et une récompense au BAFTA, mais certains veulent croire à l'Oscar pour Ruth Negga. Sa performance a été unanimement saluée pour son rôle de Mildred Loving, femme déterminée, épouse en lutte contre un système qui refuse à son couple le droit de vivre ensemble parce qu'il est blanc, parce qu'elle est noire. À 35 ans, Ruth Negga est donc propulsée sous les feux des projecteurs et fait figure de Benjamin au milieu d'actrices aux carrières bien remplies, tandis que l'Irlandaise apparaît comme l'illustre inconnue connue d'Hollywood. Pourtant, la native d'Addis Abeba, élevée à Limerick dans l'Ouest irlandais, n'est pas une novice. Comme d'autres de sa génération, c'est la série télévisée Love is the Drug qui la révèle en 2004. Un an plus tard, le réalisateur Neil Jordan, qui travaille au film Breakfast on Pluto, tombe sous le charme de l'actrice et lui aménage une place dans son scénario aux côtés de la star irlandaise Cillian Murphy. Première percée pour Ruth Negga, mais le cinéma va ensuite la bouder quelques temps. L'actrice retrouve la télévision en 2009 avec la série britannique Misfits, dans laquelle des adolescents marginaux acquièrent mystérieusement des super-pouvoirs, puis elle obtient un rôle plutôt terre-à-terre dans la série Love Hate, production de la chaîne publique irlandaise sur les gangs de Dublin. En parallèle, l'actrice est sur les planches à Londres, aux antipodes de ses rôles télé. Elle joue Shakespeare, Racine et renoue avec le cinéma en 2013 dans 12 Years a Slave, le film multi-récompensé de Steve McQueen. Mais son personnage est finalement coupé au montage, une déception majeure, même si elle rebondit la même année avec un petit rôle dans un blockbuster américain, World War Z. S'en suivent quelques films de moindre importance, jusqu'à renouer avec les séries. À peine terminé le tournage de Loving, elle se transforme en tueuse à gages dans Preacher, série déjantée issue de l'univers décalé de DC Comics, énième changement de pied pour celle qui ne veut pas s'enfermer dans un seul registre et qui pourrait devenir la première Irlandaise à recevoir la plus prestigieuse récompense pour une comédienne.
Bonjour Vincent Teval.
Bonjour Catherine.
Alors on salue le retour de la folk du Norvégien Thomas Dybdahl.
La sortie aujourd'hui du 7e album de Thomas Dybdahl signe le retour d'une des figures les plus singulières de la scène folk scandinave. Si à ses débuts le Norvégien marchait volontiers dans les pas de Bob Dylan, avec des chansons acoustiques au classicisme assumé, Thomas Dybdahl a bien rapidement balisé son propre chemin et inventé une musique neuve, nourrie de jazz, de soul et de sonorités électroniques, avec des chansons marquées par une grande liberté formelle et des arrangements sophistiqués. Aujourd'hui, avec The Great Plains, Thomas Dybdahl revient à une écriture et une approche beaucoup plus classique. Les chansons de ce nouvel album se déploient dans plusieurs directions. Certaines empruntent la voix sans issue d'une pop un peu formatée, mais d'autres font preuve de plus de finesse, comme cette belle Baby Blue.
Sur les notes de Thomas Dybdahl dans Baby Blue. Françoise Grelot et Jérémy Besset étaient à la réalisation aujourd'hui. Vous pouvez évidemment retrouver nos émissions sur RFI.fr ou sur Facebook. Ne zappez pas dans quelques instants de journal.